France Info.
Bonjour Gilles Legendre.
Bonjour.
La communauté rome est la cible d'attaques, de plusieurs attaques ces derniers jours en France suite à des fake news diffusées sur Internet. On a vu des caravanes incendiées, des personnes molestées également. Comment est-ce qu'on arrête une rumeur ?
Alors ça, c'est très difficile. Ce qui se passe est profondément choquant et malheureusement, je dois le dire, probablement appelé à se renouveler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une puissance de feu inouïe qui permet à n'importe qui, sous pseudo, de mettre en cause n'importe qui, n'importe quelle personne, n'importe quelle communauté, en racontant n'importe quoi, ce qui s'est produit en l'espèce vis-à-vis de cette communauté rome. Alors, on voit bien que ça, c'est extrêmement difficile à contrôler, mais que ça s'enflamme d'autant plus qu'on porte sur une problématique sensible. Et c'est ça qui est profondément choquant.
Que peut faire le législateur face à cette menace diffuse ? On voit bien, alors, les appels des autorités n'ont quasiment servi à rien. Une partie des gens qui regardent les réseaux sociaux ne croient pas l'information officielle, alors, avec quelques guillemets.
Je ne crois que c'est difficile de dire que ça ne sert à rien. J'imagine si elle n'avait rien dit, si elle ne tentait rien, oui. Si nous n'étions pas en train d'en discuter dans ce studio, nous contribuons tous à notre mesure à essayer de rétablir la vérité et à stopper le complotisme. Qu'est-ce que peut faire le législateur ? Nous savons que nous avons un énorme chantier concernant les fake news, le complotisme, la manipulation. Nous l'attaquons par petits bouts. Nous allons voter bientôt une proposition de loi sur les propos haineux sur Internet. C'est une première étape. Ça n'est pas le même problème que celui qui nous anime, qui nous agite aujourd'hui.
Mais est-ce que vous devez, par exemple, convoquer le patron de Twitter pour le punir, le sommer, le réprimander ? On a l'impression d'une grande impuissance des politiques.
Mais techniquement, c'est très compliqué de déterminer qui est derrière tout ça. C'est ça aussi qui est difficile. Je pense qu'on y vient.
C'est pas difficile de déterminer ceux qui relayent. Et en l'occurrence, ce sont les plateformes,
les réseaux sociaux. Absolument. Mais je pense qu'on y viendra. On y viendra et il faudra d'ailleurs que les réseaux sociaux, les plateformes se donnent les moyens d'être très transparents sur ces sujets-là.
Ça passe par des sanctions financières lourdes ?
Le cas échéant, moi j'y suis tout à fait favorable.
Alors La République En Marche a présenté hier les 30 premiers noms de la liste qu'elle présente donc aux élections européennes au scrutin du 26 mai. Une liste qui sera conduite par le tandem Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes sur le point de quitter le gouvernement, et l'écologiste Pascal Canfin, numéro 2 sur cette liste. Et sur cette liste, on trouve des profils extrêmement variés, des gens qui viennent de la gauche, de la droite, un responsable des jeunes agriculteurs favorables au glyphosate, Jérémy Decerne en numéro 4, et puis donc Pascal Canfin qui est hostile. Ce côté un peu fourre-tout, cette liste suscite des réactions parfois un petit peu critiques. Par exemple, on va écouter un ancien membre de votre groupe, La République En Marche, Mathieu Orphelin, écologiste, qui a quitté précisément votre groupe il y a quelques semaines.
Il ne peut pas y avoir d'en même temps sur le projet européen. Ça doit être un projet résolument basé sur cette transition écologique. Et il faut que les choses soient claires dès le départ. Il faut que l'ancien président des jeunes agriculteurs se mette lui aussi sur cet objectif très fort de sortie des pesticides, d'accompagnement des agriculteurs dans cette sortie des pesticides.
Pourquoi cette liste est floue ? Vous connaissez la formule ?
Je comprends que mon ami Mathieu Orphelin soit un peu frustré de voir que même sans lui, La République En Marche peut s'engager résolument dans un projet écologique et dans un projet écologique européen. Si vous voulez revenir, nous lui ouvrons grand les portes.
C'est une réaction de quelqu'un qui est blessé dans son orgueil,
ce
que vous voulez dire ?
Non, je ne lui fais pas ce procès, mais c'est vrai que nous avons, dans cette liste, vous l'avez dit, une très grande diversité des profils. Mais il y a une unité, l'unité de ces personnes, c'est un engagement pro-européen résolu. Chaque membre de cette liste des 30 premiers désignés est un militant pro-européen, quelle que soit son origine professionnelle, quels que soient ses engagements associatifs dans le domaine écologique, dans le domaine politique. Nous sommes la seule liste qui allons défendre un projet exigeant pour l'Europe, parce que nous sommes convaincus qu'il faut changer l'Europe, qu'elle ne fonctionne pas bien depuis des années, mais aussi un projet bienveillant pour l'Europe, car nous sommes convaincus que la plupart des problèmes qui se posent aux Français et dont la crise des Gilets jaunes a montré l'intensité, le caractère aigu, ne trouveront leur solution qu'au niveau européen. Donc nous devons réussir cette transformation de l'Europe, pour l'Europe, mais aussi pour la France.
Gilles Legendre, où est l'unité de cette liste, par exemple sur la question des pesticides? Quand Pascal Canfin sera élu au Parlement européen, ce qui est probable, il est numéro 2 sur la liste, et que l'ancien président des jeunes agriculteurs, qui est numéro 4, le sera aussi, ils ont des positions parfaitement antagonistes sur cette question. Voilà, quelle sera la ligne qui va gagner?
Jérémy,
c'est celle du numéro 2 ou du numéro 4? Jérémy Decercle
n'a jamais dit qu'il était pour les pesticides. Vous ne trouverez
il
plus...
Il appartient aux jeunes agriculteurs, vous... une filiale de la FNSEA qui plaide pour qu'on maintienne...
Non,
le plus tard possible.
Pas pour qu'on maintienne, pour qu'on gère la transition.
Donc c'est la ligne verte.
Cette question de la transition, elle est essentielle, elle est cruciale. Nous ne transformerons pas les modèles de production, aujourd'hui parfois très contraires aux règles de l'environnement ou à l'hygiène sanitaire, du jour au lendemain vers un modèle vertueux. Nous devons le faire de façon rapide, accélérée, mais en nous donnant le temps. Et tous les membres de cette liste sont d'accord avec cette notion de transition. C'est la transition qui est le modèle réaliste.
Cette liste, elle est donc portée par Nathalie Loiseau, qui a un profil bien particulier. C'est une nouvelle venue sur la scène politique, en tout cas depuis maintenant deux ans.
C'est quoi un profil bien particulier?
En l'occurrence, elle a eu une carrière de diplomate pendant 25 ans. Et ce profil, il est critiqué évidemment par l'opposition. Je vous propose d'écouter Raphaël Glucksmann, tête de liste du mouvement Place Publique, soutenu notamment par le Parti Socialiste, qui considère que c'est pas forcément la réponse adéquate à la crise que traverse l'Europe.
L'Europe du statu quo qu'incarne Madame Loiseau, l'Europe de la technostructure, eh bien il faut savoir la critiquer et la dépasser. Parce que l'Union européenne aujourd'hui, elle est en crise de sens. On ne sait plus pourquoi on fait l'Europe.
Nous n'attendions pas l'approbation de Raphaël Glucksmann, Renaud Dely. C'est pas l'arbitre des élégances européennes. L'engagement de Nathalie Loiseau pour l'Europe est ancien, très ancien.
Mais elle a pas un profil un petit peu techno pour redonner du souffle au projet européen?
Non, vous savez, Nathalie Loiseau, c'est une personnalité totalement atypique. C'est une femme libre, c'est une femme engagée. Vous dites qu'elle a été diplomate, c'est vrai. Mais dans ses engagements diplomatiques, notamment dans les pays en développement, elle a eu des activités associatives extrêmement riches, extrêmement intéressantes. Elle connaît toute la planète, elle connaît en effet la mécanique européenne, mais c'est une force. Si nous voulons réformer l'Europe, il faut la connaître. Si nous voulons la simplifier, ce qui est une nécessité, tant elle est devenue bureaucratique, ankylosée, il faut pouvoir la connaître pour pouvoir déjouer. Il faut la changer. Et tout l'engagement de Nathalie Loiseau depuis qu'elle est ministre des affaires européennes et d'avoir avancé sur ces projets-là. Elle connaît parfaitement la mécanique, elle a obtenu des résultats, pas toute seule, je pense notamment au statut des travailleurs détachés qui est une des grandes victoires de la France au cours des deux dernières années. Elle l'a menée en liaison avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Elle est dans le concret, c'est ça qui nous importe. Nous devons changer l'Europe pour trouver l'Europe des solutions, pas l'Europe des grandes constructions intellectuelles ou institutionnelles.
Gilles Legendre, vous restez avec nous si vous le voulez bien. On se retrouve dans une minute, un coup d'œil à l'actualité. À 9h20, David Dobat.
Dernier conseil des ministres pour Nathalie Loiseau après avoir été investie tête de liste LREM pour les européennes. Eh bien, elle doit annoncer ce matin sa démission. À ce propos, invité de France Info également ce matin, le député non inscrit du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin, a appelé les candidats de la liste La République En Marche à lever les ambiguïtés sur les questions de transition écologique pour ce scrutin. Une fake news à l'origine d'expéditions punitives, une vieille rumeur d'enlèvement d'enfants à bord d'une camionnette relayée par les réseaux sociaux, responsable d'agressions contre les Roms, notamment en région parisienne. Le maire de Sarcelles sur France Info évoque un complotisme version locale. Abdelaziz Bouteflika, lâché par le chef de l'armée en Algérie, Ahmed Gaïd Salah, considéré comme l'un des personnages les plus puissants au pouvoir, propose qu'il soit déclaré inapte à exercer le pouvoir en vertu de la Constitution. Il évoque également une possible démission. Et puis Mike Pence, le vice-président américain, l'affirme, les États-Unis vont déployer tous les moyens nécessaires pour envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 5 ans. Selon lui, nous sommes aujourd'hui dans une course à l'espace similaire à celle des années 60.
France Info. Gilles Legendre, le patron des députés En Marche à l'Assemblée nationale, est toujours avec nous sur France Info. Le Conseil des ministres se tient en ce moment même à l'Élysée. Nathalie Loiseau devrait annoncer son départ donc dans les minutes qui viennent. Il y aura un seul départ aujourd'hui du gouvernement?
Écoutez, c'est pas moi qui suis président de la République, ni Premier ministre.
Échappé.
Voilà, et je pense que c'est beaucoup mieux ainsi d'ailleurs. Écoutez, la seule certitude, c'est le départ de Nathalie Loiseau. Je rappelle juste que ce n'était en rien une obligation. Elle aurait pu rester ministre. Rien ne l'empêchait.
Vous auriez souhaité qu'elle reste
ministre ? Non, je pense que c'est très bien que nous soyons dans la clarté. Elle prend un engagement politique devant les Français, elle va s'y consacrer entièrement, c'est beaucoup mieux comme ça.
Est-ce qu'on peut rester ministre et être candidat au municipal, par exemple à Paris, comme Benjamin Griveaux ?
Pour l'instant, il n'y a pas de candidat au municipal. Il y a des candidats à la candidature au municipal. Et ça va être comme ça, probablement, jusqu'aux européennes. C'est à partir du mois de juin que le mouvement investira ses candidats à Paris et dans toutes les autres villes de France.
Donc il n'y a pas le feu là qui peuvent rester au gouvernement ?
Écoutez, ça c'est leur choix. C'est un choix qui se décide entre les intéressés, le président de la République et le Premier ministre. Le président du groupe parlementaire n'a pas d'opinion sur la question.
Renaud Dely.
Cette règle du cumul ou non entre une fonction de ministre et une candidature municipale, qu'est-ce qu'il a fixé ? Est-ce que c'est le mouvement ? Est-ce que c'est la République en marche ? Non. Ou est-ce que c'est le président de la République ?
Je rappelle, c'est une candidature à la candidature. Encore une fois, ne seront candidats que les candidats investis à partir du mois de juin. Donc il y a une période d'entre-deux que chacun peut gérer en bonne intelligence, en accord avec le président de la République et le Premier ministre. C'est à eux de prendre cette décision, ça n'est pas à moi.
Alors on va évoquer le mouvement des Gilets jaunes, Gilles Legendre. Est-ce qu'il faut renouveler samedi prochain, s'il y a de nouvelles mobilisations annoncées, les interdictions de manifester qui ont été décrété samedi dernier.
Écoutez, ce qu'on voit, c'est que les mesures que nous avions prises après les incidents inadmissibles des Champs-Élysées il y a 10 jours, ont produit leurs effets. Le niveau de violence a été proche de zéro. Donc ça veut dire que les mesures sont efficaces.
Si on interdit les manifestations, donc, effectivement, il n'y a pas de risque de violence.
Donc il faut les interdire. On ne les a pas interdits partout, Renaud Dely. On les a interdits dans des zones particulièrement critiques et on s'aperçoit que ça a bien fonctionné. Dans ce domaine, il n'y a jamais de garantie. Le risque zéro n'existe pas. Mais ce que nous savons, c'est que s'il faut maintenir l'ordre par ces mesures samedi prochain, nous le ferons. Le maintien de l'ordre n'est pas une option. Mais je vais vous dire, le maintien de l'ordre n'est pas simplement une obsession par respect des personnes, par respect des forces de police, par respect des commerçants dont les boutiques ont été saccagées. Il n'y aura pas de retour à une situation apaisée dans notre pays, y compris pour trouver les bonnes solutions, découlant notamment du grand débat national, dans un climat où la violence est un revolver sur la tempe de chacun des Français. Nous devons absolument rétablir l'ordre, ce qui est le préalable au retour à une forme de confiance qui nous permettra ensuite de trouver les bonnes solutions concrètes aux questions de santé, aux questions de transport, aux questions d'éducation, aux questions de logement, qui sont les vrais sujets. Nous ne pourrons pas trouver les bonnes solutions dans un climat de violence. Le maintien de l'ordre doit être assuré à tout prix.
Parmi les solutions de sortie de crise que vous aviez proposées, Gilles Legendre, il y avait le fait d'augmenter les pensions de retraite et de les aligner à nouveau sur l'inflation. Est-ce que cette piste va être reprise, oui ou non, à la fin du grand débat ?
Je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelles seront les décisions prises, parce que précisément, avant les décisions, il y a la restitution du grand débat. Les Français nous ont dit des tonnes de choses, des tonnes d'idées, des tonnes de propositions. Nous devons maintenant leur en rendre compte. C'est ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Au Parlement, nous allons commencer à dresser un premier diagnostic la semaine prochaine. Ensuite, il y aura un débat autour du Premier ministre dans 10 jours, dans 12 jours. Ensuite, très probablement, nous ne savons pas quand, nous ne savons pas sous quelle forme, le président de la République lui-même prendra la parole pour dire « voilà ce que vous avez dit, Français ». Oui. Non, on aura une restitution factuelle.
Oui, pardon, mais c'est lui à la fin qui va annoncer solennellement les mesures.
Attendez, d'abord le diagnostic.
Mais pourquoi c'est si long ? Est-ce que c'est pas un peu trop long au regard de l'urgence ?
Mais parce qu'il y a eu 1 700 000 contributions sur la plateforme, parce qu'il y a eu 16 000 cahiers de contributions dans les mairies, parce qu'il y a eu plus de 10 000 réunions. Et si nous voulons faire ce travail correctement ça veut dire de façon exhaustive, sincère, authentique, c'est un travail de dingue. Il y a 4 organismes totalement indépendants qui sont en train de faire ce travail-là.
Il y avait le pognon de dingue, désormais il y a le travail de dingue.
Je ne fais pas aussi bien, je reconnais.
Si réindexation des retraites il y a, est-ce que c'est pour tous les retraités, uniquement pour les pensions les plus modestes ?
Nous ne sommes pas à ce niveau de détail.
C'est pas le même budget.
Oui, ouais. Mais c'est important. Mais ça viendra. Je suis désolé, je dois solliciter votre patience. Ces décisions seront à tout. On ne rentrera pas dans la suite du grand débat par petits bouts.
Mais il n'y a pas une certaine urgence dans la fiscalité. Vous sollicitez la patience des Français, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine urgence dans ces attentes sociales ?
Les Français savent parfaitement que si on veut analyser correctement tout ce qu'ils nous ont dit, ça ne peut pas se faire en 24 heures. Et surtout, ils attendent cette photographie. Vous savez, cette photo, elle est inédite. Dans aucun pays, dans le passé, l'exercice démocratique auquel nous nous sommes livrés n'a été réalisé. Donc il faut que nous fassions proprement.
Vous aviez déjà fait, il y a 2 ans, une grande marche à travers
ça
le pays
rien
pour un
à
diagnostic.
Ça n'avait rien à voir, Renaud Dely, ni en nombre, ni en intensité, ni en superficie. Non, mais si vous me dites que probablement notre niveau de conscience des vrais problèmes du pays a augmenté fortement sur les 4 ou 5 derniers mois, je vous le dis très, très clairement, c'est vrai et c'est très bien. Et c'est notre responsabilité d'avoir ouvert ce débat pour précisément être mieux que nous ne l'étions à l'écoute des Français.
Pardon, Renaud Dely.
Parmi les sujets qui ont nourri l'inquiétude, la colère, l'incompréhension dans les territoires, il y a eu notamment la décision d'imposer la limitation de vitesse à 80 km/h d'en haut, de façon un peu brutale. Hier, les sénateurs ont adopté un amendement à la loi mobilité visant à laisser la liberté aux présidents de conseils départementaux et aux préfets de déroger à cette limitation à 80 km/h. Est-ce que vous souhaitez que les députés reprennent à leur compte cet amendement ?
Pour l'instant, non,
parce que nous sommes mis dans un
processus très clair qui était de pouvoir évaluer cette mesure des 80 km/h. La période est trop courte pour en faire une évaluation scientifique.
Donc là aussi,
Les premiers résultats sont encourageants. Nous verrons. Ni le Premier ministre, ni le Président de la République n'ont été opposés à un aménagement de cette mesure. Donc, sur le principe, il n'y a pas de problème. Il faut le faire à bon escient et de la bonne manière. Le problème, peut-être, de cette mesure des 80 km/h, c'est son caractère général. On voit bien que ça peut heurter et choquer les
esprits. D'où cet amendement sénatorial.
Donc, on verra s'il y a lieu de l'aménager.
Il n'y avait personne au sein de la majorité pour dire ce que vous dites ce matin avant à Édouard Philippe. On ne fait pas des choses de manière unilatérale, on n'impose pas à toute la France. Personne, il n'y a pas une main qui s'est levée dans le groupe que vous présidez ou autour de vous avant la fronde des Gilets jaunes.
Il y en a eu assez peu, je dois reconnaître, sur ce sujet.
Ça veut dire que vous manquez quand même terriblement de capteurs dans la population ?
Non,
ça veut dire
tout simplement que tout le monde peut commettre des erreurs d'appréciation et celle-là n'était pas si grave que ça. Vous savez, gouverner, c'est très compliqué. L'objectif de cette mesure des 80 km/h ne souffre pas la moindre contestation.
Tout le monde est d'accord qu'il faut moins de morts sur les routes.
Ben oui,
évidemment.
Ben oui, mais tout le monde est. Ça fait partie de nos contradictions. Tout le monde est d'accord pour moins de morts, mais personne n'est d'accord pour une mesure qui est un peu contraignante. Je ne sais pas comment on fait moins de morts sans des mesures contraignantes. Souvenez-vous de la ceinture de sécurité. Enfin, vous pouvez peut-être pas vous en souvenir. Moi, je m'en souviens. La ceinture de sécurité, au début, personne n'en voulait. On considérait que c'était une atteinte inadmissible à la liberté individuelle. Donc, le moment où la société, où les esprits sont prêts à évoluer, ce moment-là n'est pas un moment scientifiquement balisé.
Il est 9h10 sur France Info, on s'interrompt quelques instants, le temps de jeter un œil au titre de l'actualité avec David Doba.
Et sur France Info ce matin, Ali Benflis, c'est l'ancien chef du gouvernement algérien, président actuellement du parti Avant-Garde des Libertés, se montre réservé et sceptique après l'annonce du chef d'état-major de l'armée. Le général Ahmed Gaïd Salah propose qu'Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte à exercer le pouvoir en vertu de la Constitution. Le projet de loi sur la fonction publique franchit une nouvelle étape avec sa présentation en Conseil des ministres. 7 syndicats appellent à une journée d'action. Ce sera le 9 mai prochain, même si d'autres actions sont prévues aujourd'hui, notamment devant les préfectures. Le texte prévoit une refonte des instances du dialogue social ou encore un recours accru aux contractuels et aux contrats courts. Le sort de l'acier Ascoval, de nouveau suspendu à la justice. Le tribunal de grande instance de Strasbourg doit lui accorder normalement aujourd'hui un nouveau sursis, un mois après le désistement du groupe franco-belge Altifor. 3 nouvelles offres de reprise ont été déposées lundi. 281 salariés sont menacés. Et puis c'était jusqu'ici un terrible fait divers, mais l'affaire pourrait prendre une toute autre tournure. On apprend en effet que l'homme assassiné par balle, 5 balles précisément, la semaine dernière à Balaison, c'est en Haute-Savoie, était en réalité un ancien agent des services secrets français.
Info. Gilles Legendre, le patron des députés En Marche à l'Assemblée nationale, est toujours notre invité jusqu'à 9h avec les questions de Renaud Dely.
On a assisté à des réactions vigoureuses de l'exécutif après la décision du bureau du Sénat de transmettre à la justice les déclarations, les auditions de 3 proches collaborateurs d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous considérez, Gilles Legendre, que le Sénat est entré en guerre contre Emmanuel Macron ?
Écoutez, il n'y a pas que l'exécutif qui soit insurgé. Je me suis insurgé, je m'insurge encore. À l'évidence, la semaine dernière, le bureau du Sénat s'est égaré. Le bureau qui était d'ailleurs très divisé, comme on l'a appris ensuite, ce qui prouve bien que la décision qui a été prise relevait plus de considérations politiques et d'opportunités politiques que de considérations juridiques. Maintenant, moi je ne suis pas pour la surenchère verbale, la guerre, le conflit, etc. Ce qui est certain, c'est que la confiance, qui était assez importante entre les deux institutions, a été rompue la semaine dernière. Mais confiance, ça peut se réparer.
Mais en quoi transmettre ces éléments à la justice, sans juger, justement, puisque ce sera la justice de le faire, ça consiste à abaisser le Parlement ou le Sénat, ce serait
égaré. Ça n'est pas que ça a abaissé le Parlement, c'est que pour la deuxième fois, cette fameuse commission d'enquête, puis ensuite le bureau du Sénat, a outrepassé ses droits.
En quoi ?
Mais parce que la séparation du pouvoir veut que le Parlement n'a pas à intervenir dans le fonctionnement de l'exécutif et ni dans le fonctionnement législatif. Aujourd'hui, l'affaire Benalla, c'est une affaire judiciaire qui est entre les mains de la justice, dont le dossier d'ailleurs est assez substantiel, comme chacun peut le savoir, notamment grâce aux révélations que vous faites les uns et les autres sur ces questions. Mais ça n'est pas un sujet politique.
Est-ce qu'il faut réformer le Sénat ?
Écoutez, nous devons tous réformer les institutions. Ça, je pense que tous les Français y sont attachés. Et ce qui s'est dit durant le grand débat national montre qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui considèrent que les systèmes démocratiques fonctionnent magnifiquement bien.
Fusionner le Sénat avec le Conseil économique, social et environnemental.
Il n'y aura pas de grand soir institutionnel de cette nature. En revanche, améliorer le travail parlementaire, vérifier que les citoyens peuvent être associés de beaucoup plus près à la fabrication des lois par le droit de pétition, par le référendum d'initiative partagée, faire en sorte que cette fameuse démocratie participative puisse trouver sa voie dans cette démocratie représentative qui est la pierre angulaire.
Diminuer le nombre de parlementaires ?
Oui,
Un tiers en moins ?
Peu importe la proportion, on verra, il faut que la représentativité des départements peu peuplés soit assurée. Mais oui, c'est une promesse que nous avons faite devant les Français. Alors là, je vais vous dire, sans attendre la restitution officielle du grand débat, je peux vous dire que les Français y sont profondément attachés.
Ça, c'est la punition de Gérard Larcher.
Non, c'est une promesse de notre campagne électorale.
Vous avez l'air plus décidé que sur le reste.
Mais parce que ça, nous l'avions mis sur la table dès l'année 2017. Et les Français ont profondément adhéré à cette mesure. Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 25%? Est-ce que 20%? Le fait de pouvoir baisser le nombre de parlementaires est très important, ne serait-ce que pour leur donner les moyens de travailler mieux, de travailler plus efficace, et de faire quelque chose que nous ne faisons pas aujourd'hui, ou que nous ne nous faisons pas suffisamment, qui est contrôler l'évaluation des lois. Ce que nous appelons, nous, dans notre jargon, le service après vote.
Question de Renaud Dely.
Au sein de votre groupe La République En Marche, il y a évidemment beaucoup de novices en politique, des gens qui sont entrés en politique
en
2017, mais on dit qu'il y a aussi beaucoup de députés, une quarantaine, une cinquantaine, qui sont un petit peu mal à l'aise, qui sont parfois un petit peu perdus dans les arcanes de l'Assemblée nationale, et qui s'interrogeraient sur leur devenir. Est-ce que vous savez déjà, Gilles Legendre, combien de députés La République En Marche n'envisage pas forcément de se représenter en 2022 ?
Vous savez, Renaud Dely, notre mission, elle est compliquée, elle est exaltante. Et il n'y a pas de jour où nous ne remercions pas la chance qui nous a été donnée de pouvoir exercer ce mandat. Mais elle est compliquée. Elle est particulièrement compliquée dans la situation où se trouve la France. Et donc, il est normal que de temps en temps, tel ou tel ait un coup de mou, pour dire les choses de façon très prosaïque. Mais ça ne dure jamais longtemps. Et ce ne sont jamais les mêmes. Mais je pense que ça doit être pareil à la rédaction de France Info, ça doit être pareil dans n'importe quelle entreprise, ça doit être pareil dans n'importe quelle administration.
On n'est pas 350, nous, c'est peut-être aussi pour ça. Oui.
Non, et puis vous êtes peut-être moins observé que nous ne le sommes. Mais je ne tiens pas de statistiques. J'ai un groupe parlementaire entièrement engagé dans la transformation du pays, qui sait que sa tâche est exigeante, qui sait qu'elle est exaltante. Et puis de temps en temps, il peut y en avoir un qui est découragé, un qui est vexé parce qu'une mesure qui lui tenait à cœur n'a pas été retenue. Ça peut arriver. Ça s'appelle tout simplement la vraie vie.
Oui. Qu'en est-il de la députée Agnès Thil, qui, aux dernières nouvelles, fait toujours partie de votre groupe, après avoir déclaré, entre autres, que les femmes en attente de PMA sont des droguées. Je pourrais en citer d'autres, si vous voulez, je peux continuer comme ça. Elle fait toujours partie du groupe ?
Elle fait toujours partie du groupe, elle fait toujours partie du mouvement. Mm-hmm. Après avoir été auditionnée par les instances disciplinaire, appelons-la ça.
On peut dire qu'il y a un lobby
ça.
LGBT à l'Assemblée et resté dans le groupe.
Non, j'ai été le premier, dans l'heure qui suivait cette déclaration, à adresser une lettre co-signée avec Philippe Grandjean, qui était le délégué général par intérim du mouvement, pour lui dire tout le bien et, en réalité, évidemment, tout le mal que nous pensions de cette formule.
Au-delà de cette lettre, qu'est-ce qui s'est passé depuis ?
Écoutez, on n'exclut pas comme ça, d'une manière désinvolte et cavalière. Il y a eu une procédure. La commission des conflits a auditionné Agnès Thil. Elle l'a mise en garde contre le fait que l'expression de ses points de vue était profondément choquant, profondément contraire aux valeurs qui nous animent. elle est en train de se corriger. Je ne remarque pas que depuis un moment, elle ait recommencé dans ce type de saillie, ce qui est plutôt bon signe. Ça n'a pas forcément à l'abri définitif. Voilà, c'est comme ça. Vous savez, l'exclusion, c'est un acte extrêmement grave. Et je n'aurais voulu surtout pas...
Vous voulez dire qu'on peut exclure un député qui voterait pas le budget, mais qu'on peut tenir ces propos-là sans être sanctionné derrière?
Ça n'a rien à voir. Le vote
vous
du budget, c'est
un
vote
député,
de défiance. Le vote contre le budget, c'est un vote de défiance complet sur l'ensemble de la politique d'une majorité et d'un exécutif.
Au sein du groupe, on peut tout dire et son contraire?
Non, on ne peut pas tout dire et son contraire. Il y a des procédures qui évaluent la gravité des propos. Il y a eu des mises en garde. Il y a eu nous avons pris très clairement nos distances avec les propos d'Aviez Steele.
En cas de récidive, elle sera exclue?
Mais vous poursuivez quel objectif là au juste? C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe.
Juste essayer de comprendre.
Non. Moi, ce que je constate, c'est que Agnès Thiel ne prononce plus ce genre de phrases et je m'en réjouis.
Merci beaucoup, Gilles Legendre.